Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, nous continuons notre nouvelle série de matière à penser intitulée « Cinéma et médecine, film et médecine ». Puisque, comme vous le savez, nous prenons donc au point de départ un film habituellement de science-fiction, en tous les cas d'anticipation, et puis nous discutons sur le plan scientifique de la réalité de ce qui a été proposé. Aujourd'hui, notre point de départ sera « Ces garçons qui venaient du Brésil ». Alors c'est un film de Franklin Schaffner de 1978 et qui, de façon assez étonnante, aborde la question du clonage. Clonage humain en 78, donc on est bien avant les résultats du clonage chez les grands mammifères. Et nous allons donc en discuter avec deux personnes qui sont réelles, qui ne sont pas clonées, qui sont venues d'elles-mêmes, j'en suis sûr. C'est d'une part que Marc Rosmini, qui a écrit, qui est philosophe et qui est passionné de cinéma. Il a écrit un livre sur éthique et cinéma et puis un autre sur les méditations westernosophiques. La vie du western, malheureusement on pourra pas aborder cette question. Voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis nous avons Pascale Chavat-Palmer qui est vétérinaire, mais qui est surtout directrice de recherche de l'unité mixte de biologie du développement de la reproduction de l'INRA. Elle s'occupe beaucoup des animaux. Elle travaille en association avec les facultés de médecine. Et elle développe donc tout un concept sur le clonage animal, sur la génétique, sur l'épigénétique, que nous allons voir en détail.
Bonsoir.
Bonsoir.
History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself? The boys from Brazil starts where that nightmare left off. But for the dream to live again, 94 men must die. Gregory Peck is the architect of that dream. Laurence Olivier is the man who must destroy it before it destroys the world.
He betrayed you! He betrayed the Aryan race!
Voilà, vous avez la bande-annonce de ce film, donc, sur les garçons qui venaient du Brésil, avec, en grand rôle, le docteur Mengele lui-même, joué par Gregory Peck, et qui va nous expliquer un peu sa vision dramatique, mais sa vision quand même de ce film. Et je me tourne vers Marc Rosmini. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce film?
Alors plusieurs choses. D'abord, je trouve que c'est vraiment un film intéressant parce qu'il télescope deux concepts, deux idées qui font fuir apparemment, qui font peur, hein, puisque c'est d'un côté le clonage reproductif humain et de l'autre le nazisme. Donc bien évidemment, l'association des deux fait encore plus peur puisqu'a priori, ce sont déjà des idéologies ou des techniques ou des pratiques qui sont terrifiantes.
Moi, peut-être juste pour nos auditeurs, le sujet c'est quoi? C'est que Mengele, il a pris du sang de Hitler, il a gardé du sang d'Hitler et qu'il a la possibilité d'envisager 94 clones de Hitler.
Tout à fait. Alors si on raconte un petit peu le film, alors, bon, ça va déflorer un peu le suspense pour ceux qui l'auraient pas vu, mais bon, nous allons être obligés. Donc effectivement, Joseph Mengele, juste avant la mort d'Hitler, a récupéré un litre de sang avec lesquels donc il a créé 94 clones du Führer, d'Hitler, qu'il a fait adopter dans 94 familles. Et alors ce qui est assez intéressant, bon, on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'il a essayé de faire adopter ses enfants par des familles qui pouvaient ressembler le plus à la famille d'Adolf Hitler. Donc avec un père fonctionnaire, un père plus vieux que la mère, d'une vingtaine d'années plus vieux, un père autoritaire, et puis un père qui meurt.
Parce qu'on voit d'emblée sa préoccupation sur l'environnement qui va jouer un rôle, quelle que soit la génétique, puisqu'il faut un environnement en espérant que le jeune enfant qu'on va voir plusieurs fois dans plusieurs familles, le même évidemment, se développe en futur dictateur.
Tout à fait. Donc il y a la première expérience de pensée qui est assez étrange, c'est que bon, autant on va voir, bon, on va en discuter pendant cette émission, donc s'il est possible bien sûr de cloner un être vivant, et ça c'est possible. Par contre, cloner un milieu familial, un milieu éducatif, un milieu social, c'est très compliqué, parce que quelle variable privilégier? Parce qu'autant on voit très bien comment on va dupliquer un ADN, mais dupliquer un milieu social, il y a tellement de paramètres. Enfin, toujours est-il que donc Mengele a créé tous ces clones, et puis il décide donc d'assassiner, quand les garçons, donc ces fameux garçons ont 14 ans, il décide de faire assassiner les 94 pères pour justement qu'il y ait le même traumatisme, hein, puisque le père d'Adolf Hitler était mort quand il avait 14 ans. Donc il y a une sorte de complot international comme ça qui va être découvert par une organisation internationale elle aussi. Et donc il y a un célèbre chasseur de nazis, donc Herzl Livermann, qui va...
qui ressemble fortement à Simon Wiesenthal.
Voilà, qui en est fortement inspiré, tout à fait, en fait, qui va donc traquer, qui va remonter, et puis qui va comprendre petit à petit, parce que dans le film, on le comprend petit à petit.
Et oui, voilà. C'est ça qui est bien, hein, c'est que tout n'est pas donné d'emblée, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce groupe de nazis au Paraguay qui veut assassiner donc un certain nombre d'hommes âgés, hein, qui sont les pères donc de ces enfants clonés.
Et ce qui est assez formidable, je trouve, dans ce film, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs mon livre par ce film-là. Alors d'abord, c'est parce que c'est vrai que souvent quand on parle d'éthique, de bioéthique, lorsqu'on parle de génétique, lorsqu'on parle d'euthanasie, etc., on fait très vite référence au Troisième Reich en réalité. Hein. Il y a Léo Strauss, qui est un philosophe, qui appelait ça la réductio ad Hitlerum, c'est-à-dire pour clore un débat, on dit ah oui, mais ça c'est comme les nazis. Bon voilà, donc le clonage c'est comme les nazis, le génie c'est comme les nazis, l'euthanasie c'est comme les nazis, et ça a une tendance plutôt à clore le débat. Donc moi, j'ai essayé de montrer avec les films dont je parle, c'est que justement, il faut se méfier des idées qui se figent en dogme. Et la condamnation du clonage reproductif humain, y a peut-être de bonnes raisons de penser qu'il faut l'interdire et la condamner, cette pratique, mais en tout cas, on ne peut pas faire comme si la question ne se posait pas. Et je trouve que le film la pose assez bien, puisque c'est justement un film qui n'est pas du tout un film à thèse, en fait. D'ailleurs, la bande-annonce, à cet égard, la bande-annonce est très grandiloquente, et on a un peu l'impression qu'on va avoir un film très sérieux et peut-être qui va porter un message, alors qu'en réalité, le film est complètement aporétique. Le film pose beaucoup de questions. Le film se prend pas tellement au sérieux, en réalité. Oui. Il y a musique un peu délirante, le jeu des acteurs est outrancier, il y a un côté un peu carnavalesque qui fait qu'en fait, le spectateur sort de ce film avec plus de questions que de réponses, et c'est ça qui m'a intéressé aussi.
Vous l'avez vu, ce film, Pascal Chabat-Palmer?
Oui, bien sûr, oui, je l'ai vu.
À l'occasion de notre rencontre. Et qu'est-ce que vous pensez du passage, on va dire, didactique, hein, puisque à un moment donné, on voit un ovule, je ne sais pas s'il est humain d'ailleurs, on voit un ovule, on voit une fécondation, enfin on parle déjà, on est en 78.
Moi j'étais absolument sidérée par la précision de la technique qui est décrite dans le film à cette époque-là. Donc il y a juste un des paramètres où il va détruire l'ADN à l'intérieur de la cellule qui est l'ovocyte qui va donner l'œuf. Il le détruit en le passant sous, je crois, des rayons X. Je me souviens plus exactement quelle technique, mais là on sait que ça aurait empêcher l'embryon ultérieur de se développer, mais tout le reste est extrêmement précis. Et oui, j'étais très étonnée de la précision. Et puis il montre comment on manipule l'ovocyte.
Alors justement, peut-être avant qu'on revienne sur le film et l'importance peut-être qu'il a pu avoir, j'aimerais Pascal que vous nous racontiez qu'est-ce que c'est que le clonage, que ce soit clair pour nos auditeurs.
Alors le clonage, c'est une technique qui va permettre de transférer l'ADN nucléaire, donc ce qui constitue le noyau de la cellule, d'une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule qui est différenciée, comme une cellule de peau ou de n'importe quel organe, dans un œuf non fécondé, dont on aura enlevé le matériel nucléaire.
On fait un switch.
Alors, faut bien voir que ce matériel nucléaire, c'est 96% du matériel nucléaire de la cellule, mais on n'enlève pas ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial, qui est environ 4% de l'ADN et qui est dans les mitochondries qui sont transmises par la mère.
C'est-à-dire qui est dans ce qu'on appelle le cytoplasme, voilà, de la cellule, alors que là on parle du noyau qui contient l'essentiel, voilà, mais pas la totalité.
Mais pas la totalité. Donc un clone tel que Dolly, qui était la première de clones de mammifères à partir de cellules différenciées, n'est pas un clone complet. Il y a 4% de l'ADN qui vient de la cellule ovocyte qu'on a choisie pour être la receveuse de l'ADN de la donneuse. Donc on parle de la cellule receveuse, qui est un ovocyte qui vient soit d'un animal vivant, soit d'un animal mort. On va enlever donc ce matériel nucléaire et on va faire fusionner...
En gardant donc le cytoplasme.
En gardant le cytoplasme, on va garder les mitochondries parce qu'elles sont essentielles pour le développement de l'embryon. Et puis on va prendre une cellule d'un individu qu'on a sélectionné, on va mettre les cellules en culture et on va prendre cette cellule et on va la mettre à côté de cette cellule œuf qui est très grosse par rapport à une cellule somatique et on va faire fusionner les deux. Donc on a un tout petit peu de... On a le noyau de cette petite cellule qu'on a choisie, qui va être la cellule donneuse d'ADN, où là, il y a deux fois... il y a deux N chromosomes, hein, donc c'est une cellule qui est prête à se développer. Et puis, on va aussi introduire un tout petit peu,
oui,
de l'ADN mitochondrial.
La cellule somatique, elle est déjà le résultat d'un homme et d'une femme.
Voilà. Donc, hein, elle a déjà
ses 46 chromosomes.
Et donc, on va ensuite... donc, la difficulté, c'est que cette ADN qui était programmée pour être une cellule de peau ou une cellule... Il va falloir qu'il se reprogramme complètement, et donc on parle de reprogrammation nucléaire, pour être capable de se développer en un embryon et de former un embryon, un fœtus et un individu avec tout type de cellules.
Alors, juste pour repréciser, parce que voilà, c'est bien important de comprendre que la fécondation, c'est 23 chromosomes masculins, 23 chromosomes féminins qui se rencontrent et qui créent donc les 46 chromosomes dont nous sommes affublés. Voilà, alors que là, dans le clonage, on prend déjà un noyau de 46 chromosomes qui est déjà constitué, le fameux somatique que vous dites, c'est-à-dire une cellule de la peau habituellement ou une autre, peu importe, et il a déjà les 46 chromosomes constitués. Et ces 46 chromosomes qu'on switch, c'est-à-dire qu'on met à l'intérieur d'un œuf dont on a enlevé les 23 chromosomes qui préexistaient en tout côté naturel. Voilà, c'est ça la manipulation.
C'est ça, et après on fait se développer cet embryon et on va le transférer dans une femelle ou une femme dans le film, et qui va permettre une grossesse.
C'est extraordinaire, il n'y a même pas de fausse couche.
Non, on n'entend pas du tout parler. En fait, moi ce qui m'a frappé par rapport au film, c'est qu'on ne sait pas comment ils sont nés, ces enfants. Ils ont été adoptés, donc ils étaient déjà vivants, mais il y a une scène de chirurgie où on ne sait pas si c'est le prélèvement des ovocytes ou le transfert des embryons, et on n'a pas finalement la partie grossesse qui est très importante, et on n'en parle pas.
Puis il y a la question aussi de pourquoi en faire autant finalement, parce que effectivement dans le Joseph Mengele dans le film, donc interprété par Grégory Peck, il dit bien que le but c'est de créer le quatrième Reich avec un Führer. Alors on se demande pourquoi en faire 94, est-ce qu'ils vont s'entretuer entre eux, ou est-ce que justement ils ont pensé qu'il y aurait un taux d'échec qui n'a pas eu lieu, et donc d'emblée le projet aussi apparaît politiquement un petit peu délirant, tout est délirant dans le film, voilà, donc c'est vrai que c'est un film qui est assez drôle aussi.
Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il est délirant, et donc on prend un peu de recul en même temps, même le jeu de Grégory Peck il fait pas peur,
non.
Objectivement il fait pas Mengele en vrai, malheureusement, enfin heureusement pour lui, et il représente pas vraiment, il a un côté un peu de distanciation, mais en même temps il touche à des questionnements. Vous disiez tout à l'heure que peut-être on clôt le débat, mais moi là je pense effectivement comme vous qu'il l'ouvre.
Ah oui, il l'ouvre parce que déjà il y a plusieurs dimensions, donc il y a la dimension biotechnologique que vous venez de décrire, donc ça c'est un des enjeux du problème. Ensuite il y a la question de l'intention, en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on pense clone, notamment dans la fiction et notamment dans le cinéma, en général, lorsqu'on pense clone, c'est pour des mauvaises intentions, c'est pour instrumentaliser le clone. Hein, ici, c'est en fait le destin de ces petits garçons, il est tracé. Il faut qu'ils deviennent un dictateur. Ils n'ont pas tellement le choix. Ils sont créés pour ça. Il y a d'autres films où on crée des clones pour servir de réservoir d'organes, comme dans Never Let Me Go, dont je parle aussi dans le livre. Donc déjà, il y a la question de l'intention. Donc la question aussi des valeurs de la société dans laquelle tout ça naît, du projet politique. Et puis après, il y a la question qui m'a peut-être le plus intéressé, c'est la question ontologique, c'est-à-dire comment on pourrait se vivre en tant que sujet un individu qui saurait qu'il a été cloné. Alors ça, bien sûr, c'est une expérience de pensée qu'a priori on peut pas encore faire, mais le film en dit très peu, puisqu'en fait, bon, c'est les 94, d'abord on n'en voit pas 94 dans le film, hein, on en voit 3 ou 4, et puis surtout on les suit pas tellement. Donc il faudrait faire une suite peut-être pour savoir finalement comment est-ce qu'on se vit quand on est un clone, et à cet égard...
Mais ils ne savent pas qu'ils sont des clones.
Ils ne le savent pas, tout à fait. Mais à la fin, il apprend à l'un d'eux, Mengele, mais ils ne le savent pas, bien évidemment. Mais sur cette question-là, de savoir quelle serait l'expérience subjective de quelqu'un qui serait cloné, il y a aussi une tradition philosophique avec Habermas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec d'autres philosophes qui se demandent est-ce que ça serait vraiment une atteinte au sentiment d'être une personne unique, irremplaçable, d'être un sujet, que de savoir qu'on a été cloné ou pas. Et là, il me semble qu'il y a quand même un débat.
Alors, votre point de vue, Marco Spini?
Mon point de vue, c'est qu'en tout cas, il ne faut pas aller trop vite en besogne, et que sur ces questions-là, enfin, je pense que Dr Chabat et vous-même d'ailleurs, dans votre carrière, vous avez dû être confronté à ça, il y a peut-être une distinction à faire entre les émotions, entre les intuitions morales qu'on peut avoir, et le raisonnement, en fait, c'est-à-dire les arguments. Et ce qui est intéressant dans le cinéma, justement, c'est que souvent, on est un peu entre les deux, puisque le cinéma, il nous prend aussi par les émotions. Il nous prend par la peur, il nous prend par l'angoisse, il nous prend par l'empathie, il nous prend par le dégoût. Or, ce qui est intéressant, c'est justement de faire une reprise après. Je me permets juste de lire vraiment très rapidement un passage de donc, le livre très connu de Jürgen Habermas, « L'avenir de la nature humaine vers un eugénisme libéral ». Voilà ce qu'il écrit, c'est très rapide. Donc je cite « Si je ne me trompe pas dans mon appréciation de la discussion sur la consommation d'embryons à des fins de recherche ou sur la création conditionnelle d'embryons », donc vous voyez qu'il ne parle pas de clonage ici, hein, il parle plutôt de diagnostic préimplantatoire, de recherche sur l'embryon, mais bon, selon lui, il y a une sorte de pente fatale entre les deux, on y reviendra sans doute. « Si je ne me trompe pas, dit-il, ce qui s'exprime dans les réactions affective, ce n'est pas tant l'indignation morale qu'une aversion face à quelque chose d'obscène. Ce sont des sentiments de vertige, tels que nous en éprouvons lorsque le sol que nous croyons stable se dérobe sous nos pas. Il est symptomatique que, confrontés à la transgression chimérique des limites propres à l'espèce, que nous tenions naïvement pour immuable, ce que nous éprouvions soit la nausée. » Fin de citation. Vous voyez qu'on est, on est ici dans un registre qui est celui, effectivement, de l'émotion morale, de l'affection, peut-être davantage que de l'argumentation,
mais
me semble-t-il.
Je pense que René l'a vécu, et moi je le montre à mes étudiants quand je leur parle de l'évolution des biotechnologies de l'embryon chez l'animal, mais chez l'humain, c'est pareil. Quand il y a eu les premiers bébés in vitro, humains ou animaux, il y a eu des manifestations en disant « c'est horrible, on va faire des monstres ». Et puis, 20 ans, 30 ans après, c'est passé dans les mœurs. Donc il y a aussi cette aversion, elle est temporaire, parce que les gens s'habituent et se rendent compte de certains avantages de certaines techniques. Et donc je pense qu'il y a une évolution des mentalités.
À cause de simplement, il y a une évolution, bien sûr, mais reste quand même qu'il y a peut-être des questions de fond, et celle qui est posée, c'est sur la... Est-ce que c'est licite d'envisager l'auto-reproduction ? Est-ce que c'est une limitation ou pas ? Alors, il y a le point de vue moral, il y a le point de vue aussi, je dirais, anatomique presque, c'est-à-dire avec, justement, les expériences sur les jumeaux, parce qu'on est obligé de penser à ça. En plus, on est avec tout ce qu'il a fait d'horrible là-dessus, et bien sûr, rien démontré. Néanmoins, il y a quand même des études qui montrent que le même patrimoine génétique, dans des environnements qui sont différents, parce qu'il y a des jumeaux vrai, hein, je parle des vrais jumeaux, c'est-à-dire du même patrimoine génétique, pas de deux œufs côte à côte dans le même utérus, hein, qui sont des faux jumeaux. Mais là, c'est le même œuf qui s'est divisé, donc il y a le même patrimoine génétique. Cependant, s'ils sont élevés dans des... Ils se sont séparés à la naissance et élevés dans des familles différentes, dans des environnements, justement, on revient au film, hein, d'ailleurs, on va voir des choses différentes et des points communs, bien sûr. Mmh. Et chez l'animal, est-ce qu'on...
Alors, c'est ce qu'on trouve chez l'animal. Alors nous, on n'a pas tellement étudié les vrais jumeaux. On en faisait pour la recherche biomédicale, mais on les a pas étudiés. On a particulièrement étudié les clones. Alors les clones, s'ils sont très différents de vrais jumeaux, ils sont beaucoup moins similaires que des vrais jumeaux, parce que d'abord, ils ne partagent pas tout l'ADN. Hein. On voit bien qu'ils ont cet ADN mitochondrial qui est essentiel pour l'énergie de la cellule, qui est différent. Et puis après, on va pas les transférer dans le même utérus. Donc ils arrivent à des moments différents. Nous, sur les expériences de clonage, eh bien, on va en transférer 3-4 par semaine. Il n'y en a pas beaucoup qui vont se développer. Donc, on va avoir des clones qui vont naître à des périodes différentes, de mamans différentes, et dans un environnement différent, avec des animaliers qui seront peut-être pas les mêmes, avec l'alimentation qui sera peut-être pas les mêmes, et même avec exactement la même génétique. À la naissance, on avait des animaux qui étaient très différents au niveau taille,
Pelage,
marquage, hein, puisque on... Et ça nous a permis aussi de comprendre que certaines choses qu'on croyait totalement générées par la génétique, en fait, étaient modifiées par l'environnement dans lequel le développement avait lieu. Et du coup, ça a donné beaucoup de matière à penser et a permis le développement de ce qu'on sait sur l'épigénétique, hein, qui est comment, avec la même génétique, on va changer l'expression des gènes par l'environnement. Et changer l'expression des gènes, c'est changer finalement l'individu avec les mêmes gènes.
Donc on est là effectivement sur un terrain qui est tout nouveau, faut bien le dire, et sur lequel se greffe des interrogations scientifiques, c'est-à-dire justement sur qu'est-ce qui se passe en réalité, et puis bien sûr aussi une discussion morale, indépendamment de la réalité scientifique. Je veux dire par là, qu'est-ce que c'est que pour un enfant de se dire qu'on provient d'une seule personne ? C'est-à-dire qu'il y a la projection d'une personne qui a voulu que vous soyez là. C'est plus la conjonction de deux désirs. Alors, je sais que on est en pleine discussion des lois de bioéthique et que on voit bien que le désir unique d'une seule personne domine actuellement la société. Cependant, même s'il y a le désir d'une femme seule qui souhaite un enfant, c'est quand même avec du sperme d'un donneur, au moins d'un donneur, voire d'un homme de passage, mais qui va être dans la constitution de l'enfant qui va naître. Donc il y a de l'enfant qui va naître, même dans cette situation qui va se développer en France bientôt, il y a toujours une double origine. Alors que là, on est dans une situation d'une mono-origine, hein, puisque c'est moi qui, en tant que... voilà, j'ai envie d'avoir un enfant qui me ressemble, entre guillemets, ou qui vous ressemble, Pascal Chabat. Est-ce que ça va pas créer un emprisonnement de la pensée, d'être dans l'auto-reproduction et pas d'avoir d'adversité
de l'autre? Ouais, ce sont des grandes questions, et bien évidemment je suis pas du tout un militant de la dépénalisation du clonage reproductif humain, hein, c'est pas la question, mais il me semble qu'il y a deux problèmes différents. Qu'il y a le mode de conception d'un enfant, donc qui relève, on l'a dit, hein, de la médecine, qui relève des biotechnologies, et puis comment on l'accueille dans la société, qu'est-ce qu'on lui dit et comment on le perçoit. Parce que par exemple, c'est vrai que Habermas part du principe que l'éducation c'est en partie réciproque, qu'assez rapidement l'enfant peut avoir un regard critique sur son éducation, donc qu'il y a quelque chose de réversible dans l'éducation, qui serait irréversible dans la programmation génétique ou dans le clonage, puisqu'on peut pas a priori changer ses gènes. Enfin, en tout cas, ça paraît difficile. Mais ça se situe aussi dans un environnement socioculturel, on va dire moderne, peut-être occidental. Dans l'histoire de l'humanité, la plupart du temps, l'éducation ressemblait aussi pas mal à un formatage, quoi, en réalité. C'est-à-dire que ce que Habermas considère comme étant la norme, c'est peut-être l'exception. La deuxième chose aussi, c'est comment on accueille la normalité ou l'anormalité à l'apostrophe de l'enfant, hein, puisque on a aujourd'hui les traités internationaux considèrent le clonage reproductif humain comme un crime contre l'humanité. C'est fort, la notion de crime contre l'humanité, hein, elle a été élaboré, vous le savez justement, hein, dans le contexte du procès de Nuremberg, du code de Nuremberg, etc. Et un crime contre l'humanité, comme tout le monde le sait, c'est quand on refuse le statut d'être humain à une population, une catégorie de la population, un individu. Donc on le réifie, on le chosifie, on l'exclut de l'humanité. Mais si des enfants devaient naître par clonage reproductif, ce qui est possible à l'avenir, la question sera aussi comment est-ce qu'on les accueille finalement? Est-ce qu'on leur dit que leur existence même est un crime contre l'humanité? Ou bien est-ce qu'on les traite, comme vous le disiez, comme des individus qui sans doute d'ailleurs vont se développer d'une manière différente, puisque vous disiez hors studio finalement que des jumeaux monozygotes ont plus de points communs finalement que deux clones. Mmh. Hein, c'est bien ça?
Oui, oui.
Voilà, quel regard on porte sur un enfant et quel discours on tient sur lui, ça me paraît peut-être aussi important que le mode de conception.
Je crois qu'il nous faut un peu de musique de Jerry Goldsmith, qui est le musicien de ce film dont nous parlons, qui sont ces garçons qui venaient du Brésil, pour qu'on prenne un peu de recul et qu'on revienne sur cette question fondamentale que vous avez posée.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Voilà, nous sommes donc à France Culture dans la série Cinéma et Médecine et avec nos deux invités, Pascale Chavat-Palmer, vétérinaire, directrice de l'unité de recherche à l'INRA, et Marc Rosmini, qui est cinéphile, professeur de philosophie et qui a écrit un super livre sur cinéma et bioéthique. Nous abordons la question du clonage à partir du film donc Ces garçons qui venaient du Brésil et bien sûr la réalité de la scientifique aujourd'hui que nous allons aborder. On reviendra bien sûr sur le problème humain, mais peut-être tout de suite, qu'en est-il depuis Dolly, disons depuis cette naissance d'un mammifère qui a défrayé un peu la chronique puisqu'on n'y croyait pas.
Alors Dolly, donc c'est 1997, hein. Il s'avère que c'était un mouton. À cette époque-là, les technologies de l'embryon étaient développées dans un certain nombre de laboratoires dans le monde, donc tout le monde était à la recherche de savoir comment on pouvait reprogrammer ce noyau. Et donc, après Dolly, il y a eu très rapidement d'autres espèces qui ont été clonées. Les bovins, les souris, les rats, les lapins. Maintenant, je crois qu'il y a presque toutes les espèces ont été clonées. Ça a été beaucoup plus lent pour le primate.
22
espèces. Mmh. Donc, c'est une technique qui est associée avec...
Mais même chez le singe.
Chez le singe, ça a mis beaucoup plus de temps.
Comme pour la fécondation in vitro.
Exactement.
C'était très long chez le singe.
C'était plus compliqué pour tout un tas de raisons biologiques. Ce qui a été vraiment tout de suite associé avec la technique de clonage, c'est que ce sont des embryons qui se développent pas très bien une fois qu'ils sont transférés dans un utérus. Donc la technique est associée à des pathologies de la gestation.
C'est-à-dire concrètement, il y a
beaucoup de avortements, de la mortalité embryonnaire et des fausses couches et des avortements.
Et ceux qui survivent.
Eh bien, en tout cas, chez les bovins, qui est l'espèce sur laquelle on a le plus de recul, on en perd environ 30% dans la période néonatale. Et que ça ne marche pas sur tous les génotypes. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on peut cloner facilement et puis d'autres qui ne vont pas marcher. Pour l'instant, on a encore du mal à comprendre pourquoi.
Mais alors, Pascale Chavat-Palmer, pourquoi cloner dans le règne animal?
Alors, dans le règne animal, pour ce qui est de la production animale, l'intérêt, c'est le progrès génétique. Donc, depuis la domestication, l'homme sélectionne les meilleurs animaux pour la reproduction, pour améliorer la production de lait, de viande, etc.
Vous voulez dire que vous envisagez, ou on envisage, des vaches laitières, des vaches à viande,
enfin. Et donc, toute la structure de l'élevage dans le monde est basée sur du progrès génétique, où on va sélectionner les meilleurs, et c'est eux qui vont permettre la reproduction des générations suivantes pour améliorer la production de lait, ou même le bien-être animal. Enfin, on va choisir des traits qui sont importants au moment de la production des animaux, et puis on va choisir les meilleurs pour améliorer ces caractéristiques. Donc ça, c'était l'intérêt pour la production générale. Ensuite, la première chose, peut-être même avant la production, c'était simplement la connaissance. Parce que ce que Dolly a apporté, c'est d'apprendre qu'on a... Moi, quand j'étais à l'école, on m'a dit un noyau qui est déjà passé dans une cellule comme une cellule de peau, ne peut pas revenir en arrière. Et ce que Dolly a montré, c'est que c'était possible. Et ça a été vraiment un changement de paradigme dans la connaissance du développement. Donc, et ça, c'est toujours un objet très très important d'amélioration de la compréhension du développement de l'embryon, qui vont avoir des tas de conséquences sur tout ce qu'on peut faire sur des embryons, que ce soit animaux ou humains. Donc ensuite, il y avait les applications pour le progrès génétique, et deuxièmement, pour d'autres animaux qui peuvent être des performeurs, par exemple, ou des animaux qui sont en voie de disparition, des super sportifs, en chevaux,
par exemple.
Ou en chiens.
Ça se pratique
Ça se pratique, bien sûr, oui. En particulier, là, ça se développe énormément en Amérique du Sud, où les animaux sont utilisés pour ensuite faire des équipes de polo. Donc il y a une équipe de polo d'un très grand sportif
qui est fait des OGM.
C'est pas des OGM, ce sont des clones, mais ce sont la mère, la donneuse et ses clones qui sont dans la même équipe. Pour les chevaux de très haut niveau de sport, la plupart sont castrés. Donc quand on sait qu'ils vont être champions, ils sont perdus pour la reproduction. Et donc le fait de refaire le même cloné fait qu'on peut garder cette génétique et faire des descendants. Donc c'est pas forcément
concrètement, sur un exemple comme celui-ci, les descendants, ils gagnent aussi ? Ils gagnent des prix ?
Les descendants ont bien la bonne génétique, oui, et vont gagner des prix. Après, ils sont issus d'une fécondation, Et donc, ils ont re-eu le brassage de la fécondation. Ce sont pas les... Alors, il y a certains propriétaires qui font concourir les clones. Mais alors là, les clones ne sont pas forcément à la hauteur des espérances. Parce que, comme je vous le disais, ce ne sont pas des copies conformes, loin de là. Et donc, refaire des animaux mythiques, en particulier pour du cheval, eh bien, ça sera pas le même. Les gens s'attendent à avoir le même, alors qu'il a pas eu, il est pas né dans les mêmes conditions, il a pas eu le même cavalier, il a pas eu la même maman, et donc on a des chevaux qui sont différents. Par contre, ils vont transmettre la même génétique dans leurs spermatozoïdes ou dans leurs ovocytes que l'animal initial. Et donc c'est ça l'intérêt, plus pour la descendance. Et la dernière chose, c'est aussi pour le renouvellement de races ou d'espèces en danger.
Ou disparu. Parce qu'on peut prélever sur un animal décédé, en fait, conservé dans
sur un animal décédé mammouths, bien conservé.
On a évoqué ça.
Alors sur le mammouth, j'ai plus de doutes parce que, comme je vous dis, il y a besoin d'un utérus et un utérus de mammouth, on n'en a pas sous le coude. Et j'ai fait l'expérience d'un projet qu'on avait avec des chercheurs espagnols pour sauver une chèvre sauvage qui s'appelle la boucarda. Ces animaux sont sauvages et on voulait les retransférer dans des chèvres normales, retransférer les embryons pour sauver cette race. Et ça ne marchait pas dans des chèvres normales. Donc on avait des croisements avec une autre chèvre sauvage qu'on utilisait et c'était extrêmement compliqué. Donc ce qu'envisagent les gens, c'est de remettre des éventuels embryons de mammouth dans des éléphants, mais il n'y a aucune assurance que ça puisse porter à une naissance vivante.
Et alors, quid des personnes qui ont perdu un chien fidèle, un chat fidèle, est-ce que c'est du commercial qui est proposé ou est-ce que c'est réel qu'on peut...
Alors, ils ont phénotypique. Alors, au niveau du pelage, ils vont être différents. Clairement, ça ne sera pas le même. Ils risquent aussi de ne pas avoir la même taille. Malgré tout, chez le chien, on a de nouveau fait de la sélection pour avoir des chiens gentils, des chiens... On sait très bien que si on achète un bouvier bernois, on va avoir un gros toutou gentil. Si on achète un berger allemand, il va avoir certaines caractéristiques du berger allemand. Donc, il y a des traits de caractère qui sont liés à la génétique. Donc, par le clonage d'un animal, on va retrouver ces traits de caractère. Mais de nouveau, on ne va pas avoir le même environnement, donc on ne va pas avoir le même. Mais on va retrouver des choses qui viennent bien de l'individu. Mais ça ne sera pas le même.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Marc Rosmini, la situation chez l'humain, en se posant comme question, mais comment est-ce qu'on accueillerait ces enfants, comme on a accueilli peut-être les enfants de la GPA, les enfants de l'inceste, enfin toutes ces procréations, créations un peu hypothétiques par rapport à la morale, qui choquent la morale ancrée. Alors, c'est vrai qu'il y a eu donc des réunions au niveau de tous les États. Il se trouve que la France et l'Allemagne, en 2004-2005, avaient demandé à l'ONU de prendre une position d'interdiction du clonage. Et il se trouve que j'étais dans la délégation française, donc j'ai assisté à l'Assemblée Générale de l'ONU. Et en tous les cas, à ce moment-là, c'est pas passé. Il n'y a pas eu de condamnation. Pourquoi ? Alors, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait trois gros groupements dans l'Assemblée. Le premier, c'était à la période où c'était Bush, hein, le président des États-Unis. Et donc, il y avait une position pure et dure orthodoxe religieuse catholique qui disait, on peut interdire le clonage, on n'est pas pour, mais il faut interdire la fécondation in vitro, il faut interdire la contraception, il faut interdire l'IVG. Donc, une position maximaliste qui disait, pas ça sans ça. Donc, ne suivez pas. Et puis, il y avait une position intermédiaire, qui était une position moyenne orientale, sans jeu de mots sur l'intermédiaire, c'était effectivement une position moyenne, qui disait, peut-être on attend de voir, mais on prend pas tout de suite une position. Puis, il y avait la position, donc, de la France et de l'Allemagne, menée par la France et l'Allemagne, avec les pays, enfin, on va dire, assez européens, qui, eux, étaient pour l'interdiction. Et en fait, l'interdiction n'a pas eu lieu. Et à ma connaissance, il y a eu une réunion, ça a été relancé à l'UNESCO, il y a eu une réunion quelques années plus tard, qui a pas pris position. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas de position officielle.
D'accord.
Au niveau international, en tous les cas, sur le clonage humain. Alors que, on voit bien qu'il y a des choses qui se font ici ou là, en particulier, on a beaucoup parlé récemment des manipulations embryonnaires dans les pays asiatiques et particulièrement en Chine, avec certaines inquiétudes, parce qu'il n'y a pas que le clonage. Pascal Chabat-Palmer, vous êtes aussi préoccupé par tout ce qu'on peut faire aujourd'hui entre les embryons nés de trois personnes, les ciseaux qui permettent de recomposer la génétique. Est-ce que ça, c'est déjà utilisé au niveau animal? Puisque vous, je répète, vous êtes vétérinaire, vous êtes dans le monde animal. Mais on voit bien que on commence par là et qu'on peut aboutir à autre chose.
Alors au niveau animal, donc le changement... Les ciseaux du génome, donc CRISPR-Cas9, depuis quelques années, on sait le faire chez les animaux domestiques. C'est même souvent associé au clonage, pas toujours. On peut le faire directement sur l'embryon, juste après la fécondation, ou sur des cellules en culture, où on va tout maîtriser, puis ensuite on va cloner ces cellules pour faire des individus. C'est utilisé très couramment chez la souris, mais maintenant chez les animaux domestiques pour faire des modèles animaux, pour les maladies humaines, donc c'est vraiment à des visées biomédicales. Mais avec ces techniques, on peut aussi changer le génome, mais rester dans le génome de l'animal. Actuellement en Europe, c'est plutôt en mauvaise voie pour une utilisation sur des animaux qui seraient utilisés pour la consommation parce que l'Europe a mis le veto. En disant que ces animaux seraient des animaux transgéniques et la régulation pour les transgéniques est très très difficile, ce qui fait qu'il n'y a pas d'animaux transgéniques produits pour l'élevage en Europe.
Donc on ne risque pas de manger
des animaux transgéniques. Ah non, vous ne risquez pas en Europe. Par contre, si vous allez en Amérique du Sud, l'opinion des pays d'Amérique du Sud est qu'à partir du moment où ces techniques sont utilisées pour réintroduire un gène de la même espèce, il n'y a pas de raison de les appeler transgénèses. Et il n'y a pas de raison de les interdire. Et donc, il y a un gouffre actuellement entre ce qui se passe en Europe et ce qui est en train de se passer en Amérique du Sud, avec un moyen... Ça ne sera pas possible de savoir si un animal, par exemple, on va dire une vache, qui arrive en Europe, si elle a subi ces modifications, ce seront des gènes bovins. Et donc, c'est indétectable. Donc voilà, donc ça se passe. Après, dans les autres technologies qui sont plus biomédicales, actuellement...
pense à la viande argentine qui est tellement bonne, qui était...
Je peux vous donner une anecdote. Allez. Il y a 2004, j'ai été invitée par une grosse boîte argentine pour aller parler de ce qu'on faisait, nous, au niveau de l'INRA. Et je me suis retrouvée dans un hacienda, je leur ai fait tout un topo sur le clonage bovin chez nous. Et puis j'ai fini par un aspect éthique. Et après, ils m'ont dit, c'est très bien, Pascal, mais on n'a pas trop compris la dernière partie. Tu comprends, chez nous, là, regarde, tout autour de nous, c'est du soja transgénique, ça ne nous pose pas de problème. Le clonage ne nous pose pas de problème. Donc, on est sur une façon de voir qui est différente.
Marc Rosmini, cette façon de voir différente...
Oui, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut toujours envisager le sens d'une technique, non pas simplement pour ce qu'elle est, mais pour le contexte social dans lequel elle s'insère. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez des chevaux clonés pour le polo, etc. C'est intéressant, parce que là, on est dans un contexte de compétition sportive, de concurrence, où il faut qu'il y ait des vainqueurs. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'imaginer des techniques de manipulation génétique, CRISPR-Cas9, voire de clonage, voire de PMA, etc. Si on est dans un contexte d'une société, par exemple, plutôt solidaire, où chacun peut avoir sa place, ou bien de société extrêmement duelle, quoi.
J'ai envie de vous dire, est-ce que le fait de penser à se faire cloner n'est pas déjà une rupture par rapport à la société égalitaire? Parce que ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est contre l'altérité, contre le risque du nouveau, et l'autoconservation de soi-même, je parle de l'humain, je parle pas de l'utilisation animale, ça signifie quand même qu'on se pense au-dessus.
Oui, tout à fait. Et
puis c'est la voie, justement, au film que vous racontez dans votre livre et que nous venons de discuter, sur ces garçons qui venaient du Brésil, c'est effectivement le clonage pour perpétuer ou pour que des gens, on va dire, supérieurs.
C'est le mystère du double. Alors c'est sûr que le clonage pose aussi la question de la subjectivité, parce qu'effectivement, se dupliquer, c'est quand même pas dupliquer sa conscience ou sa subjectivité. Mais ce qui me semble essentiel quand même sur cette idée de concurrence, et là on peut faire un parallèle entre Bienvenue à Gattaca aussi et le film dont on parle aujourd'hui, c'est que dans Bienvenue à Gattaca, justement, ce qui est peut-être d'autant plus scandaleux, ce sont les inégalités dans cette société, plus que les techniques finalement de diagnostic préimplantatoire, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est très important, parce que si on isole la technique des questions éthique et surtout politique, c'est-à-dire de comment la société est organisée, en fait, il me semble qu'on pose les problèmes de manière incomplète. Outre bon, ce que vous disiez à l'instant, bien sûr, sur la motivation qui peut rester mystérieuse.
Oui, parce que là, je parle pas du résultat.
Pourquoi vouloir se dupliquer ?
L'enfant encore, à la limite, je sais pas. Mais je veux dire, le pourquoi ? Pourquoi faire ? Parce que c'est toujours la même chose dans tout ce qu'on voit aujourd'hui en science. N'oublions pas, et c'est pas Habermas qui va dire le contraire, n'oublions pas de nous poser la question du pourquoi,
oui,
au lieu du comment.
Ça serait pas du tout certain que si on dépénalisait le clonage reproductif humain, il y ait tant de monde que ça, finalement. Enfin, qui aurait vraiment envie d'avoir des doubles comme ça ?
Peut-être on fait référence au film, et peut-être une idéologie qui pense que l'auto-reproduction de soi-même est sans doute meilleure que le risque que de l'altérité,
voilà.
et donc c'est un sujet, et je pense que c'est pour ça, enfin dans les débats auxquels j'ai assisté, c'était ça qui était sous-jacent, c'est-à-dire c'était la référence justement au film, au nazisme et tout ça, au sens de une caste supérieure, mmh. Et c'est celle-là qu'il fallait protéger, c'est celle-là qu'il faut développer.
Mais ce n'est pas évident non plus, parce que on a constaté par exemple que pour le diagnostic préimplantatoire, certaines des dérives qu'on redoutait n'ont pas forcément eu lieu, il y a même eu des phénomènes inverses, c'est-à-dire vous connaissez les histoires, on connaît des familles de personnes sourdes, par exemple, qui voulaient faire un DPI, non pas pour éviter la surdité, mais au contraire pour la rechercher, pour avoir un enfant qui soit plus facile à intégrer dans
plus
leur famille, dans leur milieu.
Idem
chez les personnes de petite taille, chez les nains qui ont demandé des DPI. Donc en fait, cette idée d'une humanité qui voudrait devenir parfaite, etc., là encore, ça dépend beaucoup de comment on accueille la différence dans la société, comment on l'accueille, comment on la traite, etc. Et il n'est pas évident que si d'un coup on avait le droit de se cloner, il y aurait autant de gens qui voudraient se cloner. C'est l'argument de la pente fatale, vous savez, on n'est jamais sûr que ça marche. Tout à l'heure, ce que vous disiez, je trouvais ça intéressant, sur ce que vous disiez sur la position du Vatican et des autorités catholiques. Parce que la pente fatale, c'est Ruben Ogien, le philosophe, l'expliquait très bien. Ça peut toujours marcher dans les deux sens. Soit on se dit, si on autorise la PMA pour les femmes, on autorise la GPA, et puis on autorise le clonage, et puis ça devient un élevage humain. Bon, c'est la pente fatale des gens qui la voient dans ce sens-là. Mais comme vous l'avez très bien dit, et vous avez très bien expliqué le raisonnement catholique, c'est si on interdit le clonage, mais il faut aussi finalement interdire toute forme de procréation médicalement assistée, puisque le Vatican, vous le savez, est contre, y compris la PMA, pour les couples hétérosexuels, avec les gamètes,
le principe
du couple,
même,
etc.
Le principe.
Voilà. Donc en fait, la pente fatale, bon, c'est une expérience de pensée, la pente fatale. C'est-à-dire, on peut toujours aller dans un sens, mais on peut aussi aller dans l'autre. Donc c'est pas forcément un raisonnement qui est conclusif. Et il me semble que, pour terminer sur le film, le petit morceau de musique qu'on a écouté tout à l'heure, il est excellent, parce qu'il résume bien cet esprit du film. La musique, elle est hésitante. On sent que c'est une musique qui laisse au spectateur le choix, finalement, de se faire son idée, puisqu'elle est par moments burlesque, par moments tragique. Et alors que dans Bienvenue à Gattaca, justement, la musique, elle prend le spectateur par la main pour lui dire c'est ça qu'il faut penser. Et voilà, pour dans le film de Schaffner, je trouve ce qui est intéressant, c'est la place qui est laissée au spectateur de sortir avec des questions davantage qu'avec des réponses.
Voilà, nous allons nous séparer sur ces interrogations, sachant que le débat n'est pas clos et que nos clones se retrouvent en principe la semaine prochaine pour continuer à débattre, et on verra s'il y a du pareil au même. En tous les cas, merci à vous d'être présents.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Je renvoie aux productions littéraires, en particulier de Marc Rosmini sur cinéma et éthique. Je remercie Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Justine Wild et puis Olivier Dupré de leur présence holographique. Et puis, je vous dis que vous pouvez retrouvez toutes ces informations sur le site internet de franceculture.fr autant que vous le souhaitez. Et que demain, nous nous retrouvons pour la série Body of Proof de Matt Gross avec le médecin légiste Philippe Charlier. Autre domaine, science, cinéma et science.